Sa louange. inimaginable, inimaginable, sa gloire. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut s'imaginer du ciel, de la gloire de Jésus auprès des anges, de sa gloire, de ce qui nous est même révélé dans les Écritures, qui sont insondables, bon, bien, eh bien, on n'a pas fini de découvrir la gloire de Dieu.
Amen.
On sera toujours étonné. Ce sera toujours plus glorieux que ce qu'on n'a jamais pensé, que ce qu'on a vécu jusqu'ici, que ce qu'on a compris jusqu'ici. Et puis, il y a toujours une progression à faire en Dieu. C'est illimité. On n'arrive jamais au bout. Et c'est ce qui rend notre Dieu si grand, et si puissant, et si merveilleux, et si indicible. Alors j'arrive au mot inimaginable sa gloire, indicible sa joie et ses dons. On ne peut pas en exprimer indicible sa joie, on ne peut pas exprimer la joie de Dieu dans sa plénitude. Elle est au-delà de ce qu'on peut dire. Justement, nos mots sont trop petits pour dire notre joie et pour apprécier les dons que Dieu nous a donnés aussi. Et, encore un innombrable, la multitude de ses anges. J'ai trouvé que c'était vraiment merveilleux, puisqu'on était dans cet esprit-là, de voir toutes ces qualités, tous ces mots qui définissent l'infini de Dieu, sous différentes facettes, qui nous dépassent tellement, que tout ce qu'on peut dire, ce sera toujours plus grand que ce qu'on peut dire, de toute façon, ou ce qu'on peut croire, ou de ce qu'on peut s'imaginer, de ce qu'on peut voir. Dieu est infini. Il est infini dans tout ce qu'il fait. Il est infini dans sa sainteté, dans son amour, dans sa joie, dans sa paix. Il est infini dans toutes ses qualités. Infini. Nos mots sont petits pour exprimer ce que nous voudrions dire. Et c'est pour cela qu'il nous donne aussi les dons. Le don du parler en langue pour aussi nous exprimer par l'Esprit, parce que l'Esprit de Dieu vient à notre secours dans notre faiblesse, dans nos lacunes, dans notre limitation. Et c'est merveilleux de savoir qu'il y a une solution à notre faiblesse. Efforçons-nous aussi de louer et d'adorer le Seigneur en langue. Souvent, et plus vous adorez le Seigneur en langue, plus il vous en donne des paroles. Plus il vous inspire, et plus il vous aide dans votre faiblesse. Et plus la gloire revient à notre grand Dieu Sauveur, plus la gloire revient. Nous voulons lui dire merci d'être un Dieu comme cela pour nous.
Amen.
Amen.
Nous allons voir quelques pensées importantes dans ces temps où les combats dans la vie du chrétien sont toujours de plus en plus nombreux, il ne faut pas l'oublier. Et comme les combats augmentent, nous devons savoir réagir et avoir la bonne attitude afin que nous ne soyons pas emportés, que nous ne soyons pas découragés, mais qu'au contraire, nous puissions glorifier le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et un des dangers dans la vie du chrétien, on le voit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, en tout cas déjà, où il y a ces exhortations à ne pas se lasser, ou à ne pas se décourager. Et j'en ai relevé ici plusieurs, j'en ai relevé sept. Sept dangers de lassitude du chrétien. Si le Seigneur revient, dans ces temps de la fin, il y aura aussi un, comme les vierges qui se sont assoupies. Et il y a comme une lassitude qui est là dans le combat, et nous devons veiller à ne pas nous laisser emporter par cette lassitude. C'est un danger. Et cette lassitude a plusieurs raisons. Et la parole de Dieu est là justement pour nous instruire et nous avertir d'avance pour qu'on ne tombe pas dans ces pièges-là. Alors, sept dangers de lassitude du chrétien. Dans quel domaine le chrétien, ça c'est le titre, sept dangers de lassitude du chrétien, dans quel domaine le chrétien peut-il se lasser? Alors on va trouver une première mention de lassitude, de découragement et dans tout cela, dans Luc 18, verset 1. Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se
relâcher.
Soulignez bien ici. Et ne point se relâcher. Et vous avez remarqué qu'il faut toujours prier. Donc, il y a un danger de se lasser dans la prière. Il y a un danger de se lasser dans la prière. Et le mot lasser, le mot décourager, veut dire manquer de courage, se lasser, abandonner et même reculer. Il y a un danger quand il est dit qu'il ne se relâche point, il y a tout ça dedans. Il y a la pensée de manquer de courage, la pensée de se lasser, la pensée d'abandonner, et la pensée de reculer. Alors le Seigneur veut dire ici une pensée très précise de ne pas se relâcher dans la prière. Alors on ne va pas méditer sur ce juge inique, on connaît le récit, mais on va voir comment le récit se termine. Et au verset 6, le Seigneur ajouta: « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Et regardez ce qu'il est dit ici. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Voyez-vous, ici, la prière est en rapport, ou la foi, si vous voulez, est en rapport avec la prière. S'il n'y a pas cette prière, cette communion que nous devons maintenir avec le Seigneur en tout temps et de toute manière, c'est notre foi qui va en prendre un coup. Car ce qui alimente notre foi, c'est la prière, c'est notre communion avec Dieu. Et pour quelle raison on peut manquer de prière? Vous avez vu dans l'histoire du juge inique, le juge, d'abord, il ne voulait pas se lever, il ne voulait pas donner ce qu'il fallait. Alors, finalement, il s'est levé. Et puis, alors, le Seigneur, il prend un exemple de ça, comme pour dire, voyez-vous, il parle aussi d'injustice. Il fera justice à ceux qui crient à lui. Et ça, c'est dans les temps de la fin. Comme pour dire, écoutez-moi bien, mes enfants, il y aura beaucoup d'injustice dans cette terre, sur cette terre. Vous serez peut-être aussi victime d'injustice vous-même. Alors, attention. À cause de ces injustices, ne commencez pas à perdre votre communion avec Dieu. Ne commencez pas à avoir de l'amertume dans votre cœur. Ce qui vous empêchera de prier, c'est comme si le Seigneur disait, attention, tout n'ira pas comme vous le voulez. Mais un jour, Dieu fera justice. N'attendons pas toute la justice sur cette terre. Nous passerons par des chemins difficiles. Mais la justice finale, c'est Dieu qui la donnera. Et il nous faut absolument avoir cette vision devant nous. Sinon, on va arrêter de prier. Si on commence à voir dans son cœur, oh Seigneur, pourquoi cette injustice? Pourquoi cette injustice par-ci, par-là? Ou même dans ma famille? Ou même par-ci, par-là? Voyez-vous, on peut avoir toutes sortes de raisons qui peuvent nous empêcher de prier. Et si nous, en, si cela nous empêche de prier, tôt ou tard, c'est notre foi qui va en prendre un coup.
Eh ben oui.
Vous voyez, le Seigneur ne finit pas en disant, mais il ne finit pas, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des gens qui prient sur la terre? Il dit pas des gens qui prient. Parce que ça ne reste pas comme ça quand on ne prie plus. C'est notre foi qui en prend un coup. Notre foi dans sa justice. Notre foi dans sa droiture. Notre foi dans son intégrité. Notre foi dans le fait qu'il est notre berger. Il prendra soin de nous.
Amen.
Il nous aidera. Il y a beaucoup d'injustices. Nous ne pouvons pas corriger toutes les injustices dans cette terre, sur cette terre. Il nous faut donc veiller et à ne pas nous lasser. Et pour ne pas nous lasser, il faut continuer de prier et de garder cette communion avec Dieu en croyant qu'il arrangera toutes choses. Un jour, il fera justice. Et c'est cette pensée-là qui doit nous rassurer, qui doit nous réconforter. Si le juge inique, qui a une tête dure, et qui finalement a accepté de changer, il dit, mais à combien plus forte raison, moi, ne croyez pas que je suis injuste. C'est terrible quand on commence à penser que notre Dieu est injuste. Ouais. Que les païens le disent.
Oui, d'accord.
Mais... comprends? Mais qu'un chrétien le dise, ça, alors ça veut dire qu'il y a une lassitude.
C'est dangereux.
Ça veut dire qu'il y a une lassitude déjà qui est là. Et l'ennemi est en train de faire une œuvre de destruction. C'est pourquoi il nous invite à prier et à ne pas nous relâcher dans la prière. Et croire qu'il est le Dieu qui fera concourir toutes choses pour notre bien. Romains 8, 28, n'est-ce pas vrai? Mais nous savons, c'est un verset que tout chrétien doit savoir par cœur, mais nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas seulement toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est pas ça le verset. C'est, mais nous savons. Le savons-nous? Le sais-tu? Est-ce que je le sais? Ah, mais je sais que Dieu fait concourir toutes choses à mon bien. Ah, ça change tout ça. Au lieu de dire, ah, mais oui, toutes choses concourent à mon bien. Mais est-ce que tu le sais? Ah, je suis pas bien sûr. Il y a des fois, je suis sûr, il y a des fois, je suis pas sûr. Alors, quand on est dans cet état d'esprit-là, la lassitude vient. Vous voyez comme les pièges sont là, tout autour de nous. Et il nous faut veiller. Veiller, et comment continuer de prier? En réalisant que notre Dieu fera justice. Autrement dit, qu'il ne se trompe pas. Toutes ses œuvres sont parfaites. Que les choses se passent comme nous le voulons ou comme nous ne le voulons pas, ses œuvres sont parfaites. Ses réponses à nos prières, c'est parfois oui, mais c'est parfois non. Et le non est aussi une réponse. On pense parfois que le non n'est pas une réponse à la prière. Le non est une réponse. On ne comprend pas maintenant, mais plus tard il expliquera. Et quand il nous expliquera pourquoi il a dit non, on va se courber à ses pieds, on va lui dire, merci Seigneur, tu as bien fait Seigneur. C'est vrai. Oh, il ne fallait surtout pas faire autrement. Parce qu'il voit la fin d'une chose, dès son commencement. Nous on voit que le commencement, mais lui il voit la fin. Il est la fin mon gars, le commencement est la fin. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Oui, c'est un peu, tout tourne autour de ça. Notre Dieu est un Dieu de justice. Donc veillons surtout à ne pas entretenir en nous des pensées indignes de Dieu. Qui fait que, oui, moi, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Une fois il est avec moi, une fois il est contre moi. Quand il répond à mes prières, il est avec moi. Quand il ne répond pas à mes prières, il est contre moi. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi? Mais c'est dans notre tête. C'est pas dans sa tête à lui. C'est dans mon sentiment, mais c'est pas en lui. Et il nous faut avoir cette pensée-là d'un Dieu juste qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Amen. Quand il dit oui, disons oui. Quand il dit non, disons aussi non avec lui, avec foi. Et un jour, il nous l'expliquera. Mais maintenant, il n'y a pas d'explication. C'est par la foi. Mon juste vivra par la foi. Un deuxième danger, 2 Corinthiens 4.1. Là aussi, nous voyons l'apôtre Paul, cette fois. 2 Corinthiens 4.1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne... Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Perdons pas courage. Soulignez là maintenant. C'est une autre expression de lassitude là. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point de conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Et pourquoi Paul disait que il ne fallait pas perdre courage? Eh bien, il faut voir un peu le contexte, un peu au-dessus, les versets du dessus, un peu au verset 12 déjà. Ayant donc cette assurance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alors pourquoi il ne fallait pas qu'ils se découragent? La deuxième danger est cette, parce qu'il fallait qu'il soit fidèle au message. Tout à l'heure, c'était une lassitude dans la prière, et là, une lassitude dans la fidélité au message. Les cœurs sont durs, vous avez vu. Ils sont durs d'entendement. Ils ne veulent pas écouter. Et Paul avait cette opposition de la part des Juifs partout où il allait. Et ça pourrait être lassant pour lui. Non seulement il s'opposait, mais il le persécutait même en plus. Alors, il dit, mais il ne faut pas se décourager. Après, quand il dit, mais on prêche la vérité, on ne cherche pas à plaire aux uns et aux autres. Vous voyez, il veut leur dire, mais moi je n'ai pas, comme certains Juifs le faisaient, certains faux apôtres, ils essayaient d'être bien avec les Juifs. En leur disant, oui, mais c'est bien, oui, là aussi, on peut mettre la loi avec la grâce un petit peu, en faire tout un petit mélange, et puis ça ira bien, il n'y a pas de problème. Ceux-là, ils étaient bien vus par ces Juifs. Mais Paul n'était pas comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous n'avons pas une conduite astucieuse, au verset 2. Vous voyez, comme pour dire, avec les Juifs, j'ai un tel message. Et puis avec les autres, j'ai un tel autre message.
Diplomatique, un peu.
Il n'était pas un diplomate, il était un homme de Dieu. Voilà. Donc, on peut se lasser dans la fidélité au message. Il faut bien faire attention. Et aujourd'hui, est-ce que beaucoup de chrétiens et de pasteurs ne se sont pas lassés là-dedans? À cause de l'opposition. Pour être bien.
Avec tout le monde.
Avec tout le monde. Avec les disciples de Moïse. Avec les pharisiens, avec je ne sais qui, on veut être bien. Pourquoi? Parce que il y a une lassitude qui est là. On a cédé à cette lassitude. On en a assez de combattre. Il faut obéir à ça. Jésus a dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Donc, une deuxième lassitude ici, qui est en rapport avec la fidélité au message. Ne cherchons pas à plaire à l'un ou à l'autre. Il parlait en toute conscience, devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez que c'est beau, Paul. Il était dans une transparence totale à l'égard de Dieu et à l'égard des hommes. Certains, avec à l'égard des hommes, ils vous disent une chose, mais alors ils pensent à autre chose. Avec Paul, ça n'existait pas. Il a dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et nous savons que celui qui a une telle attitude aura toujours la présence du bon berger près de lui. Oui. Le bon berger n'abandonne jamais sa brebis, qui lutte pour lui et qui défend sa vérité. Mais il peut y avoir une lassitude là, dans ce domaine, dans la prière et maintenant dans la fidélité. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous n'avons pas de conduite astucieuse. Ils sont durs d'entendement. Combien de personnes sont durs d'entendement au milieu de nous, même dans notre famille. Et on peut se décourager. On a l'impression que ça s'endurcit encore de plus en plus. Comment nous en sortir? Ah, il faut commencer à dire, hein.
Ça va, c'était pas grave.
Ah, le piège.
Ah, mais c'est pas grave, c'est rien.
On commence à justifier le péché. On commence à justifier des mauvais comportements. Tout ce qui est un peu ténébreux, douteux. Si on entre sur ce terrain-là, c'est que la lassitude a fait des dégâts en nous. Il y a un découragement qui est là. Et on se dit maintenant, bon, ça suffit. J'en ai assez. Veillons. Dans ces temps de la fin, il nous faut être fort. À celui qui vaincra dans l'Apocalypse. Le Seigneur lui-même appelle ses enfants des vainqueurs. Il les appelle à vaincre. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. Ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons vaincre. Puisqu'il a vaincu, nous pouvons vaincre aussi. Il faut simplement rester près de lui. Et marcher dans ses pas. Et si nous le suivons fidèlement, nous arriverons au port désiré. Amen.
Amen.
Une autre référence maintenant, dans 2 Corinthiens toujours, 4, 16 cette fois. Il y a une autre référence. C'est pourquoi, encore une fois, voyez-vous, tout à l'heure verset 1 c'était c'est pourquoi. Et maintenant encore, après toute sa dissertation là, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et comment il faut faire pour ne pas perdre courage? Lors même que tout notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, voilà la raison, parce que nous regardons non au point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors, ici encore, la lassitude, elle nous saisit lorsque nous cessons de regarder aux choses invisibles. Si nous cessons de regarder aux choses invisibles, la lassitude va s'emparer de nous. Et Paul, c'est comme cela que ça m'est sorti. Car les légères afflictions du temps présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous vous rendez compte? Regardez le rapport au verset 17. Car les légères afflictions produisent un poids éternel. Voyez-vous la différence? Légères afflictions, un poids éternel de gloire. Et c'est ce que Paul veut dire. Si on ne comprend pas ça, on va être écrasé par nos afflictions. Et pourtant, qui sont légères aux yeux de Dieu, il faut voir le poids éternel de gloire qui nous attend là-haut. Et ça, il faut qu'on pense plus souvent.
C'est vrai.
Au ciel. Au moment où nous devons nous présenter devant Dieu.
Oui, c'est ça.
Nous devons y penser souvent et dire, Seigneur, si je devais maintenant me présenter devant toi, est-ce que j'aurais honte? Est-ce que je serais dans un bon état d'esprit? Si je devais le faire maintenant, si tu m'appelais maintenant, où en suis-je à ton égard? Dans ma foi, dans ma consécration? Pour ne pas nous lasser, une troisième raison, il faut donc regarder aux choses invisible et au poids éternel de gloire qui nous attend là-haut. Il y aura la récompense pour ceux qui sont restés fidèles. Amen. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous dépasse.
il y aura une récompense. On ne cherche pas la récompense. On ne travaille pas pour être récompensé. Mais Dieu nous aime tellement qu'il veut le faire, qu'il le fera. Et s'il nous donne une couronne ou plusieurs couronnes, nous n'allons faire qu'une chose, nous allons prendre cette couronne pour la déposer à ses pieds. Mais la tragédie serait que nous n'ayons pas de couronne à jeter à ses pieds. Et comme je vous l'ai dit, je pense, vous l'avez dit, je l'ai acheté dans un livre, c'est Charles Spurgeon qui avait dit un jour cela, et ça m'est toujours resté, vous l'avez dit. Seulement ceux qui portent leur croix sur cette terre porteront une couronne dans le ciel. C'est logique. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Seulement ceux qui portent leur croix, ceux qui ne portent pas leur croix, qu'est-ce qu'ils vont avoir, eux ? Il est dit que ça va tout brûler.
La paille.
La paille, du chaume, du foin. Seulement ceux qui portent leur croix porteront une couronne dans le ciel. Est-ce que vous aurez, est-ce que j'aurai une couronne à lui jeter à ses pieds, à remettre à ses pieds? Donc, le danger de lassitude, parce que nous regardons aux choses visibles. Et comment s'en sortir? En regardant aux choses invisibles. Ne nous laissons pas impressionner par tout ce qu'on voit. L'apparence trompe. L'homme regarde à l'apparence. C'est bien écrit. Mais Dieu regarde au cœur. Ne nous laissons pas influencer par les apparences. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi, persévérons. Dieu seul connaît les cœurs. Faisons ce que Dieu nous demande. Ne nous laissons pas arrêter par les apparences négatives. Faisons confiance au Seigneur. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quatrième danger de lassitude. Dans Galates, chapitre 6, verset 9, il y a une autre mention. Galates 6, 9. Verset 8, déjà, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous, vous avez vu, ne nous lassons pas de nouveau. Souligné, 6, verset 9. Ne nous lassons pas, souligné, voilà le verbe lasser. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant qu'on a. Si nous ne nous relâchons pas, deux reprises, l'expression. Ne pas nous lasser, ne pas nous relâcher, car nous moissonnerons autant convenable. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, comment ne pas tomber dans ce piège de la lassitude en, qu'est-ce qu'il est dit ici ? En faisant le bien, oui, mais en ne nous relâchant pas. Autrement dit, en persévérant dans le travail que Dieu nous a confié. Celui qui s'arrête, il va tout perdre. C'est celui qui persévère. C'est celui qui travaille jusqu'à la récolte qui aura la récolte. Ne nous lassons pas avant. Car nous moissonnerons au temps convenable. Le temps convenable, c'est le temps du Seigneur. Nous ne le connaissons pas. Encore une fois, faisons confiance. Il y aura une moisson. Donc, comment sortir de cette lassitude? En persévérant. En persévérant. Car nous moissonnerons autant convenable. Seigneur, tu sais, quand tu devras intervenir. Et vous savez, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que bien souvent, quand on a des combats et qu'on a vraiment besoin d'une intervention du Seigneur, bien souvent, le Seigneur intervient. Par un frère, par une sœur, par un téléphone, par un petit mot. On est là, autant qu'on a du Seigneur, oui, hop, ça y est, c'est là.
C'est vrai, ça.
Et comme pour nous encourager, on a tous fait l'expérience.
Ah, bah oui.
Tous. Quelqu'un au téléphone, ou un mot qu'on nous envoie. L'autre, la personne n'est pas au courant du tout. de notre état d'esprit, des circonstances dans lesquelles on est. Et puis d'un seul coup, elle dit une parole qui vient du ciel, qui est une réponse à votre prière, alors que l'autre ne sait rien du tout. Au temps convenable, ici-bas, et au temps convenable, là-haut. Donc ne nous lassons pas. Il y a un temps convenable. Il n'est pas encore là. Eh bien, ne te décourage pas. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Pas du tout. Au contraire, le temps convenable. J'avais lu l'histoire une fois de ce vigneron qui voulait offrir quelque chose à des grappes de raisin à un ami. Alors il lui a dit, écoute, attends ici, là, je vais te chercher quelques grappes, attends-moi ici. Et l'autre a attendu, le vigneron est parti avec son panier pour chercher les grappes et tout ça. Il ne voyait plus arriver. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce mec, c'est pas possible. Et il a dit, tardez, mais tu peux, il ne peut pas trouver quelques grappes, là, tout de suite, il les a amenés. Il parlait tout de suite. Il s'est lassé. Finalement, il y aurait arrivé. Il dit, mais pourquoi vous avez tardé comme ça? C'est parce que je cherchais les meilleures grappes pour toi. Je cherchais les meilleures grappes. N'est-ce pas beau, ça? J'aurais bien mieux fait de me taire. Moi qui pensais qu'il ne s'intéressait pas à moi, il se moquait pas de moi. Alors c'était le contraire. C'était le contraire. Il était en train de chercher le meilleur pour moi. Et le meilleur, ça prend du temps. Le tout venant, ça se fait tout de suite. Le tout venant, ça se fait tout ce qui n'a pas de valeur, tout de suite. Mais les perles, c'est pas sur la terre qu'on les trouve, les perles. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Les perles.
Il faut creuser, allez, au fond de la mer, là-bas.
Tu les vois pas là, en sortant.
Tu ne flottes pas la surface.
Non, ça n'existe pas, ça. Comprenez?
Oui.
Et il pensait que l'autre s'était moqué de lui. Et il a été honteux. Ah, excusez-moi. Quelle honte. Qu'on ne puisse pas dire un jour, Seigneur, tu as été trop long.
Oui, exactement.
C'est trop long.
Toujours trop précis, de toute façon.
Et le Seigneur nous dira, mais j'avais quelque chose de meilleur pour toi, voilà. C'est pour ça que j'ai tardé. Ouais. Faisons-lui confiance. Ouais. Faisons-lui confiance. Ouais. Il sait, il viendra avec le meilleur. Ouais. Non pas ce que nous pensons, mais ce que lui pense, c'est le meilleur.
Oui, de toute façon.
Ouais. C'est le meilleur. Si Dieu avait exaucé toutes nos prières, personne ne serait ici au milieu de nous.
Ouais.
Moi, le premier, je ne serais pas ici. Il n'y aurait pas de maison ici. Il n'y aurait rien de nous tous ici. Si Dieu avait exaucé toutes nos prières, rapidement. Heureusement qu'il y a des noms. Heureusement. Alors faisons-lui confiance. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a plus. Il a dit qu'il allait m'amener quelque chose. Il n'y a plus. J'ai tardé parce que je voulais le meilleur pour toi. Et pour nous aussi, le Seigneur veut le meilleur.
Faisons confiance.
Allons un peu plus loin. Un autre danger. Éphésiens 3:13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Voilà, encore une fois.
C'est souvent que ça revient.
Mais oui. Mais pourquoi ça? Parce qu'il y avait un danger. Vous êtes d'accord? De ne pas... À cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Pourquoi certains se lassent? Pourquoi certains se lassent? À cause des tribulations.
Des tribulations.
À cause des tribulations. Et on comprend que là, Paul était en prison à ce moment-là. Alors, quelqu'un qui est en prison, vous avez plutôt pitié de lui? Vous avez plutôt envie de pleurer avec. Et dites, s'il est en prison, c'est tout fichu. Et Paul dit le contraire.
je suis en prison, mais la parole de Dieu n'est pas en prison. La parole de Dieu n'est pas prisonnière. Dieu peut agir même si je suis en prison. Ne pensez pas parce que je suis dans les tribulations que le travail ne peut pas se faire. Et c'est ce qu'il avait peut-être autour de lui, les chrétiens. Paul est en prison. Alors il les voyait tous pleurer. Et l'homme va arrêter de pleurer. Qu'est-ce qu'ils disent? Elles sont aussi votre gloire. Et ces tribulations, finalement, on pourrait traduire vous honneur. En vérité, ça veut dire vous devriez en être honoré. C'est ce que vous voulez leur dire. Vous devriez être honoré de ce que je sois en prison. Ces tribulations-là sont pour la gloire de Dieu. Effectivement, Paul a écrit ses plus belles lettres en prison. C'est ces lettres écrites en prison qui apportent le message de libération. Bien sûr, sur le moment, est-ce qu'on comprend tout ça? On est loin de comprendre tout ça. La lassitude, parce qu'on ne comprend pas le but de des tribulations. C'est pas beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Comme je le dis souvent, il y a beaucoup de chrétiens alléluia, mais pas beaucoup de chrétiens amen. Alléluia, c'est bien, on a bien loué le Seigneur, mais en plus de cela, il faut être aussi un chrétien amen. Ta volonté soit faite, Seigneur. Être un chrétien alléluia, ça, tout le monde peut le faire. Même s'ils ne le font pas. Il y en a beaucoup qui ne le font même pas. Il y en a qui ne sont même pas des chrétiens alléluia.
Ben oui, c'est ça.
Mais le chrétien alléluia doit aussi être
un chrétien
amen. Parce que quand Paul voyait tous ces chrétiens qui étaient là, il dit, ne pensez pas que je suis en train de vous déshonorer là. Parce qu'il pensait peut-être que quelqu'un en prison. Pourquoi il est en prison d'abord? C'est parce que il a peut-être. Il a mis la main à la caisse, et peut-être qu'il a fait je ne sais quoi, s'il est en prison. C'est toujours douteux, quelqu'un qui est en prison, vous êtes d'accord avec moi? D'où tu viens? Je sors de prison. Tu sors de prison? Tout de suite, on tourne la tête. Pas possible. Bon, mais attends, je vais t'expliquer, pourquoi? Je sais pas, je sais. Même quand on explique, on est déjà influencé. Donc, je suis en prison. Alors, certainement que les chrétiens à ce moment-là étaient aussi secoués.
Oui, bien sûr.
Ébranlés dans leur foi.
Sûrement, oui.
Mais ne pensez pas que j'ai fait quelque chose de mal. Je suis un ambassadeur dans les chaînes. Au contraire, en vérité, vous êtes honorés par l'engagement que j'ai devant Dieu et devant vous. Il y a des choses qu'on ne comprend pas maintenant, mais qu'on comprendra plus tard. Donc, ne nous lassons pas à cause des tribulations. Ne nous lassons pas. Elles sont nécessaires. Il y a plusieurs versets, vous pourrez les trouver, bien sûr, dans ces passages. Et elles sont nécessaires. Puisqu'il le faut. Dans l'épître de Pierre, Paul, il en parle souvent. Voyons maintenant, on en est où?
Sixième
danger. 2 Thessaloniciens 3, 13. Ah, ici c'était 3, 13 aussi, mais c'est 2 Thessaloniciens cette fois. 2 Thessaloniciens 3, 13. Ici, Thessaloniciens. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Alors, bon, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi? Vous avez des problèmes? Vous avez l'intention de ne plus faire du bien? Paul ne dit pas ça comme ça s'il n'y avait pas un danger. C'était pas un discours comme ça rhétorique pour dire non, non, c'est qu'il y avait un danger pour vous. Pour vous, frère, ne vous lassez pas faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Ici, certains se sont lassés à cause du mauvais témoignage de chrétiens. Le contexte, c'est ça. Il y en a qui ne travaillaient pas à Éphèse, à Thessalonique. Et Paul leur dit, et si vous ne travaillez pas, et ben vous ne devez pas manger. Et tout ça. Alors il y en a qui étaient là, qui allaient de maison en maison, et qui mettaient la paillerie comme ça. Et Paul leur dit, ça ne va pas ça. Et puis certains, ne vous lassez pas faire du bien, c'est comme s'ils voulaient leur dire, juste à présent t'as fait du bien, et parce qu'il y a un frère qui tourne va de travers, tu commences à dire maintenant, si c'est ça, j'abandonne tout. Ça n'existe pas, ça. Combien de chrétiens ont abandonné le Seigneur à cause du mauvais témoignage d'autres chrétiens? Le Seigneur n'aura rien fait. Rien. Absolument rien.
Oui, c'est tragique.
À cause du mauvais témoignage, si c'est ça, je ne fais plus rien. Pour vous, ne vous lassez pas de faire le bien. C'est pas parce que l'autre est tombé, il vient n'importe quoi, que tu vas abandonner le Seigneur. Il est sur une mauvaise voie. Mais toi, ne fais pas comme lui.
Ben voilà. Pas faire la même chose.
Ne fais pas comme lui. Et beaucoup se sont lassés à cause de ça. Ouais. Ah, je suis déçu. Ouais. Par tel frère, telle sœur. Ah, je suis déçu, déçu, telle personne. Ah non, non, si c'est ça, les chrétiens, eh bien, au revoir. Au revoir. Ça me revient toujours à l'esprit. Un jeune homme, au début de ma conversion, dans l'école biblique où j'étais là-bas, il y avait un jeune homme qui venait à l'école biblique le dimanche au culte, mais dans la semaine il travaillait. Et il s'était converti par le moyen du responsable de l'école biblique. C'est lui qui l'avait amené au Seigneur. Alors, il était bien, c'est pour ça qu'il venait là, au culte là. Et un jour, il y a eu un crack à la tête, quelque chose de grave. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme qui venait là, qui était tout bouillant, tout gentil, je vois encore sa tête. On ne l'a plus revu. On a demandé, mais pourquoi il n'y a pas? Mais qui c'est? Il a dit, comment? C'est ça? C'est ça là? Vous? Il était déçu. On n'a plus jamais revu. Espérons qu'un jour il reviendra. Ça fait des années que j'ai plus de nouvelles. Mais voilà ce qui s'est passé. Mais il n'est pas le seul.
Non.
Pour vous, quand on le dit. Mais nous, voilà, c'est pas faire le bien. C'est pas parce que y en a qui deux ou trois qui mettent la pagaille. Qui font le désordre que vous-même, vous allez arrêter.
C'est ça.
Ne vous lassez pas. Non. Par le mauvais témoignage des autres. Non. Il y en aura toujours.
Non, oui.
Et surtout devant Dieu, ce ne sera jamais une occasion valable.
Ah ben c'est ça surtout. Ah. Ils sont
comme je dis souvent aux nouveaux convertis, vous pouvez être déçus des chrétiens, mais vous ne serez jamais déçus du Seigneur.
Du Seigneur, jamais.
Et c'est ce qu'il faut dire aussi aux nouveaux chrétiens.
Bien sûr, dès le départ.
Parce que quand ils se convertissent, ils ont l'impression que quand ils nous voient, on est tous comme des anges.
Mm-hmm.
Ouais, on a le sourire, on est content, on est bien. Je dis, monsieur là, c'est le chéaillet, je suis au ciel déjà. Et puis au bout de quelques temps, quand ils voient un peu que c'est pas du tout, c'est pas toujours ça,
c'est ça.
Alors ils sont déçus. Et beaucoup avant, il faut tout de suite leur dire, tu seras certainement d'ailleurs déçu de certains chrétiens. Mais jamais du Seigneur. Attache-toi au Seigneur et non pas aux hommes. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais bienheureux est l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et pour terminer, on en arrive au 7. Hébreux 12, 5, un autre danger. Hébreux. Hébreux 12, 5. Verset 3 déjà, on peut dire. Considère en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous... Là, c'est point. Déjà, il y a même plusieurs fois. Vous ne lassiez point. L'âme découragée, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, luttant contre le péché. Encore contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors, vous voyez ici
un danger de lassitude est là quand on refuse la discipline du Seigneur. On refuse d'être corrigé par le Seigneur. On refuse d'être repris par le Seigneur. Et combien de chrétiens là aussi, à cause de leur orgueil, quand vous leur dites quelque chose et qu'ils doivent changer dans tel ou tel domaine, non, ils refusent d'être repris. Et c'est pour ça qu'ils vont à la dérive. La lassitude, parce qu'on refuse, ne vous lassez point et ne perds pas courage. Si le Seigneur te reprend, c'est pour ton bien. Et un peu plus loin, il est dit, c'est pour que tu parviennes à la sainteté. Ah, voilà, au verset 10 à la fin. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. À la fin du verset 10. Voyez-vous ? Dieu nous corrige pour que nous puissions lui ressembler davantage, pour que nous participions à sa sainteté. Et pour terminer au verset 11, il est dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Quand on a vraiment accepté la correction du Seigneur, sur le moment, c'est mieux, on réagit. Bon, d'accord, non, non. Mais quand on accepte, cela produit, et qu'est-ce qu'il dit ? Plus tard. Il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Quel est le fruit ? Un fruit paisible de justice. Vous voyez, les deux mots sont importants ici. Alors, au bout d'un certain temps, vous dites, vous commencez à réfléchir un peu, et dites, Seigneur, c'est vrai, j'avais besoin de passer par là. C'était juste que je passe par là. Et parce qu'on accepte que c'était juste, la paix de Dieu envahit notre cœur. Un fruit paisible de justice. Chaque mot est important là. Chaque mot, c'est pas une addition de mots comme ça. Un fruit paisible de justice. Mais plus tard, on ne comprend pas tout de suite. C'est pourquoi ne nous emballons pas, ne nous décourageons pas trop vite, ne tirons pas trop vite des conclusions. Dieu est en train de nous corriger pour qu'on participe à sa sainteté, pour que son image paraisse en nous. Dieu est plus intéressé à voir son image en nous que nous de vouloir être béni par Dieu. Le plus important, c'est d'abord que son image paraisse. À quoi ça sert d'être béni et de ressembler à un petit démon? De n'avoir aucun témoignage et d'avoir été soi-disant béni. Voyez-vous la contradiction? Ça veut dire qu'on n'a rien appris de la discipline du Seigneur, des épreuves, des difficultés. On n'a rien appris. Et ne perds pas courage, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Voyez, au verset 4, l'âme découragée. C'est terrible, le découragement. C'est l'arme que le diable utilise le plus, le découragement. Veillons à cela, la lassitude, le découragement. Quand quelqu'un est découragé, dis-moi bien, il est prêt à faire n'importe quoi. Dans le découragement, on est prêt à faire n'importe quoi.
Le découragement, c'est l'arme.
Parce que le diable sait que quand une personne est découragée, cette personne-là, en un instant, peut détruire toute sa vie.
Oui, c'est terrible.
Veillons.
Faire très attention.
Le danger, la lassitude provient de ce qu'on refuse d'être corrigé. Alors, pour beaucoup, quand le Seigneur les corrige, leur réaction c'est « Dieu ne m'aime pas, parce que Dieu ne m'aime pas. » Alors que c'est exactement le contraire. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et certains disent « Ah, mais c'est parce qu'il ne m'aime pas. » Et la parole de Dieu dit « C'est parce qu'il t'aime. » Alors, il faut comment on va faire? Qui est-ce qui décide là?
Qui a raison?
Ah non, c'est bien la preuve qu'il ne m'aime pas. Ah bon? Il faudrait changer de lunettes. C'est bien la preuve qu'il t'aime.
Voilà.
Des parents humains s'ils aiment vraiment leur enfant, les corrigent, vous êtes d'accord avec moi? Un enfant qui n'est jamais corrigé prend directement le chemin de
la destruction.
De la destruction. Il devient voyou. D'enfant, il devient voyou en peu de temps.
Voilà. Alors, cet danger de lassitude dans la vie du chrétien. Vous voyez, dans tous ces domaines, on a tous besoin.
Tous besoin de veiller.
De veiller.
Oh là là.
De veiller, 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 veiller. Et c'est ainsi que le Seigneur, l'entrée dans le ciel, si nous veillons, sera largement ouverte. Et que le Seigneur saura récompenser tous ceux qui ont veillé et ont persévéré jusqu'à la fin. Que le Seigneur soit béni.
Amen.
Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Que ces vérités pénètrent en nous, en moi, en premier, Seigneur. Que vraiment, elles fassent son œuvre. Et que cette œuvre de sanctification puisse s'opérer plus profond de moi-même et de nous-mêmes. Et que ton image paraisse. Car tu as pour but la sanctification et la sainteté dans notre vie. Te ressembler, c'est le but premier. Non pas être béni, mais te ressembler. Seigneur, garde-nous dans cette vision céleste des choses, afin que nous ne nous lassions pas, et que nos regards ne soient pas sur les choses visibles de ce monde, mais sur les choses invisibles. Car les visibles passent, mais les invisibles demeurent éternellement. Nous voici, Seigneur, que ton Esprit Saint imprime ces vérités de ta parole plus profondes de notre cœur, de notre conscience et de nos pensées. Et que notre témoignage soit un témoignage qui t'honore, ici-bas, dès maintenant et pour toujours. Amen.
Si le Seigneur utilise toutes les circonstances diverses qui parfois nous accablent pour faire notre éducation, pour que nous le ressemblions davantage. Il connaît aussi les combats que nous pouvons avoir au fond de notre âme, au fond de notre cœur, et qui parfois peuvent laisser des traces. Et le Seigneur m'a montré qu'il y a quelqu'un. Et il m'a dit, ces jours passés, que quelqu'un au milieu de nous est comme une brebis qui a une plaie très profonde. Alors le Seigneur est aussi celui qui guérit les plaies profondes.
Amen.
S'il fait notre éducation d'une part, il est aussi celui qui panse les blessures.
Docteur.
Il est le docteur aussi. Il est les deux. Et là, ce matin, le Seigneur m'a dit qu'il voulait. On a beaucoup chanté sur les combats, sur les rues de combat, les clameurs ici-bas. Tu diriges les pas toujours plus haut. Et puis, il en a encore été question des combats. Et puis, le Seigneur m'a dit que ce matin, il viendrait toucher cette personne qui est au milieu de nous, qui a une plaie profonde dans son âme. Que personne, une plaie douloureuse de ton cœur, que personne ne peut panser. Personne ne peut guérir. Et le Seigneur dit, je suis le médecin de ton âme. Alors, cette parole, pour toi, parfois, un combat fait rage dans ton cœur. Et voici ce que le Seigneur te dit. Quand ton âme est remplie de tristesse, invoque-moi. Quand ton âme est dans la détresse, crie à moi. Et on trouve beaucoup ces verbes-là dans la bouche du psalmiste. Invoque-moi, crie à moi, invoque-moi, crie à moi. Vous pouvez lire les psaumes, il y en a plein, des centaines de fois peut-être. Quand ton âme est remplie de tristesse, invoque-moi. Quand ton âme est dans la détresse, crie à moi. Tu te sens parfois comme au fond d'un puits. Et quand tu lèves les yeux vers moi, je viens te rassurer et fortifier ton âme. Alors, quand tu es dans ton puits, tu lèves les yeux vers Jésus et tu vois la lumière de Jésus jaillir sur toi. Quand tu marches ainsi au milieu de la détresse, c'est moi ton divin berger qui te maintient en vie. Le jour où tu m'as invoqué, ne t'ai-je pas répondu ? Rassuré, fortifié, je suis et reste ton sauveur et je sais tout ce qui se passe dans ta vie. Je connais chacune de tes pensées, que ta confiance repose entièrement sur moi. Appuie-toi davantage sur moi. Dans les fournaises les plus grandes, j'ai toujours délivré mes enfants qui ont crié à moi. Toujours. Que je sois pour toi aussi le Dieu des délivrances. Et une autre parole, ce n'est qu'en choisissant chaque jour de renoncer à tes propres plans et de faire confiance à la direction du Saint-Esprit que tu pourras coopérer à l'œuvre que j'accomplis en toi. Plus tu te fieras à mes instructions, à mes paroles qui sont esprit et vie, et aussi à la direction de mon esprit, et plus tu te sentiras en sécurité. Car je connais parfaitement tous les dangers dont tu te sens menacé. Je te protégerai toujours lorsque tu me suis et que tu fais ce que je te dis. Suis-moi pas à pas et tu avanceras sereinement sur le chemin qui te mène dans ma gloire. Seigneur, merci.
Oui, merci.
Tu as un chemin tout tracé.
Amen.
Et nous n'avons pas, nous, à faire des plans. Nous n'avons qu'à nous laisser conduire par toi sur le chemin que tu as tracé.
Amen.
Et si dans les combats très difficiles, notre âme parfois se trouve blessée, tu es là notre médecin pour nous, venir nous guérir de ces plaies que nous pouvons avoir le long du chemin, ramasser le long du chemin. Et puis cette parole merveilleuse, je fais toutes choses belles en mon temps.
Amen.
Lorsque plus rien ne peut te relever, plus rien ne peut t'aider, mon amour pour toi, dit le Seigneur, te relèvera toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Combien tu es notre bon berger. Notre bon berger. Et cette parole, ça m'a assez frappée dans le psaume 140. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Verset 7. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut. Ça, cette parole-là. Tu couvres ma tête au jour du combat. Le Seigneur couvre ma tête, nous protège au jour du combat. Je couvre ta tête. Tu n'as pas besoin de couverture humaine, tu n'as pas besoin de chercher à te protéger toi-même. Le Seigneur, lui, il met sa main. Il te couvre. Il te couvre la tête. Je n'avais jamais remarqué ça. Tu couvres ma tête au jour du combat. C'est fort ça. C'est merveilleux.
Au jour du combat.
Au jour du combat. Donc justement.
C'est pas n'importe quand. C'est au moment où on en a besoin.
Où c'est fort, où le combat est fort.
Au moment où on en a besoin.
Où on en a besoin, où le plus besoin. Et puis si on a été heurté, blessé, meurtri, si on a une plaie, le Seigneur est là comme le docteur de nos âmes. Et puis on peut aller à lui et recevoir la guérison dont on a besoin de nos blessures, de nos âmes.
Autant qu'on a.
Que personne ne peut guérir. Personne dans ce monde ne peut guérir.
Et autant qu'on a, il intervient.
Oui, voilà. Et il fait toutes choses belles en son temps.
Autant qu'on a.
Ah ben oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, voilà. C'est c'est ça, toi. C'était dans le compte, hein, ça complétait un petit peu, disons, c'était une autre facette. Une autre facette. Alléluia. Nous voulons te louer, Seigneur.
Merci.
Parce que tu es parfait dans toutes tes voies.
Oh oui, il n'y a pas d'injustice.
Et si nous ne comprenons pas certaines choses, et si certaines choses nous font du mal, tu as une solution dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui t'échappe. C'est vrai que tu es notre éducateur, tu es notre papa, tu fais notre éducation, mais tu es aussi le médecin qui sait guérir quand nous nous sommes fait mal, ou quand les combats nous ont fait mal, eh bien, tu comprends cela aussi. Et tu es rempli de compassion. Tu es rempli de pitié à notre égard. Et justement, il y avait aussi ce beau verset du psaume 103. Comme un père a compassion, et dans une autre version, c'est marqué a pitié. Comme un père a pitié de ses enfants. C'est plus fort encore. L'Éternel a pitié de ceux qui le craignent. Bon, dans la compassion, il y a la pitié aussi, évidemment. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et de ses miracles. Jamais perdre courage, justement. Se rappeler de tout ce que le Seigneur a fait déjà aussi. Et que le Seigneur est un Père qui a pitié de nous. Si parfois il nous reprend, il nous corrige, et bien d'autres fois aussi, c'est sa compassion qui agit. Et nous voulons te remercier, Seigneur. Merci pour cette matinée où tu nous as exhortés, où tu nous as visités. Seigneur, nous avons pu te louer, t'adorer, et savoir et réaliser une fois de plus que tu es un grand Dieu, tellement infiniment plus grand que tout ce que nous pensons, imaginons. Seigneur, tu as une solution dans chacun de nos problèmes, dans chacune de nos souffrances. Et tu veux aussi que par toutes ces choses, nous grandissions à ton image. Et que nous puissions, que tu puisses nous utiliser pour en aider d'autres. Et non pas que nous être des pierres, devenir des pierres d'achoppement pour certains. Et que d'autres soient choqués par notre comportement. Seigneur, pardonne toute faiblesse dans ce domaine. Toute chose charnelle qui reste en nous et combien nous voulons grandir encore pour te ressembler plus et davantage. Seigneur, sois loué, sois béni, parce que tu ne te lasses pas si nous on se lasse. Toi, tu ne te lasses pas de nous corriger, de nous exhorter, de nous encourager. Tu ne te lasses pas, tu as une grande patience. Ta patience aussi est infinie. Merci Seigneur, loué soit ton nom. Nous voulons te remercier pour cette belle matinée que tu nous as donnée à tes pieds. Et nous voulons rester avec toi et te dire combien nous t'aimons et combien nous apprécions que tu t'occupes de nous. Et de nos circonstances et de notre personne, afin que nous puissions continuer de grandir. Et qu'un jour, nous ne soyons pas honteux en nous présentant devant toi, lorsque nous aurons des comptes à rendre devant toi. Que Seigneur, nous puissions au contraire aussi avoir une couronne à déposer à tes pieds. Sois loué, sois béni, Seigneur. Merci pour ton aide. Combien nous avons besoin de ton aide. Nous sommes faibles, la chair est faible, tu as dit. C'est l'esprit qui l'unifie. Nous avons besoin d'apprendre à marcher par l'esprit. Nous accomplirons moins les œuvres de la chair.
Amen.
Plus nous marcherons par l'esprit, moins nous accomplirons les œuvres de la chair. Seigneur, plus nous deviendrons semblables à toi, sois béni, Seigneur. Et loué, adoré, élevé dans nos cœurs. Amen.
Amen.